c'est moi qui m'occupe du dossier calédonien, déclare le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Le président de la République devrait de son côté prendre une initiative selon le député de la première circonscription. Retour sur le dossier calédonien vu de Paris. Un sujet qui sera aussi le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver dans ce journal. Deux personnalités politiques attendues cette semaine en Calédonie, le vice-président des LR, François-Xavier Bellamy, et Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National, arrivent ce soir, demain soir. 13 plongeurs de l'armée mobilisés ce matin pour nettoyer la rade devant la base Chalex. Au moins 200 kilos de détritus ont été sortis de l'eau. En métropole, blackout sur Cannes, deux groupes anarchistes ont revendiqué des sabotages qui ont plongé toute la ville dans le noir. Le Vietnam, première étape d'une tournée de 6 jours en Asie du Sud-Est. Emmanuel Macron va chercher de nouveaux soutiens pour contrer les USA d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal que nous prolongerons par le magazine des sports du lundi. Michael Gineski, beaucoup d'actualités sportives ce week-end et notamment le début de Roland-Garros.
Oui, premier coup de raquette et premières émotions pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Sur la terre battue parisienne, à suivre de près, les jeunes Français qui ont de l'ambition devant leur public. C'est déjà passé pour Giovanni Mpetit-Péricard et Quentin Alice qui poursuivent l'aventure au deuxième tour.
Nous reviendrons aussi sur la belle victoire de l'UBB en finale de la Champions Cup de rugby.
Exactement, premier titre dans la prestigieuse Champions Cup pour l'Union Bordeaux-Bègles, la belle histoire d'une équipe montée en top 14 seulement en 2011 et qui vise aujourd'hui le doublé pour détrôner les intouchables Toulousains. L'UBB et ses Foutouniens ont savouré cette victoire sur les Anglais de Northampton 28-20.
Et puis nous reviendrons évidemment sur le week-end sport mécanique avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le Grand Prix de MotoGP de Grande-Bretagne à Silverstone. Côté actualité locale en sport, on parlera de plusieurs sports avec nos invités.
Ouais, la première journée est sport pro Events à Tontouta, ce sera dimanche prochain. Plusieurs disciplines, hein, vous le disiez, qui seront présentes, des épreuves de run and bike, de VTT et d'aquathlon, sans oublier les randonnées pour le grand public. Nous en parlerons avec David Esposito, l'un des organisateurs.
Le magazine des sports à suivre dès la fin de ce journal. Emmanuel Macron, inquiet, préoccupé et concerné par la situation calédonienne. C'est ce qu'affirme le député Nicolas Metzdorf à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État. Il annonce que le président de la République devrait prendre une initiative dans les prochains jours. Mais cela ne plaît pas à Manuel Valls, Elisabeth Noir.
C'est dans la nuit de vendredi à samedi pour nous que Nicolas Metzdorf a été reçu à l'Élysée par le chef de l'État. Le député de la première circonscription s'est entretenu en tête-à-tête avec Emmanuel Macron pendant plus d'une demi-heure, l'occasion de lui faire part de l'inquiétude des partisans de la France, après notamment la proposition d'indépendance association formulée par Manuel Valls. Vous avez pu entendre Nicolas Metzdorf dans nos précédentes éditions. Il annonce notamment que le président de la République lui a précisé que la souveraineté de la France était de sa prérogative et qu'à ce titre, il prendrait une initiative dans les prochains jours afin de relancer les discussions. Le député de la première circonscription a aussi rendu compte de cet entretien sur sa page Facebook et son commentaire a été soumis à Manuel Valls, ce qui était hier soir pour nous, l'invité de LCI. Des propos qui ont beaucoup irrité le ministre des Outre-mer. Il indique notamment que Nicolas Metzdorf n'est pas le porte-parole du président de la République ou du gouvernement. Manuel Valls, qui tient même à préciser que c'est lui et lui seul qui s'occupe du dossier calédonien.
Que le président de la République, sur notamment la question de la souveraineté de ces territoires, et plus que son mot à dire, mais c'est au cœur de ses prérogatives, c'est la clé de voûte des institutions de la Ve République. L'institution présidentielle, non seulement ça ne me choque pas, mais je trouve ça normal. Qu'il y ait des initiatives qui soient prises, mais pas du type de celles annoncées par Nicolas Metzdorf, et qu'à un moment on se retrouve avec le chef de l'État. Mais ça a toujours été dit, ça n'est en rien une nouveauté. Mais pardon, je le dis à tout le monde, que chacun soit clair, celui qui s'occupe à la demande du chef du gouvernement du dossier de la Nouvelle-Calédonie, c'est le ministre des Outre-mer, c'est moi,
c'est vous.
Il n'y en a pas d'autre.
Manuel Valls interviewé hier soir sur LCI, Nicolas Metzdorf précise quant à lui avoir rappelé au chef de l'État que si les non-indépendantistes étaient toujours ouverts à la négociation, le choix des Calédoniens devait être respecté et que l'indépendance ne pouvait pas être une option. C'est donc au plus haut sommet de la République qui est désormais posé le dossier calédonien. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ajoute le député calédonien.
Et c'est un sujet, Elisabeth, qui est au cœur de votre chronique de la semaine écoulée.
Aujourd'hui, dans le dossier calédonien, c'est un peu la douche écossaise. Chaque semaine apporte son nouvel élément, mais il est difficile de percevoir une cohérence. Après le froid de Manuel Valls, est-ce le chaud qu'Emmanuel Macron va faire souffler sur le dossier calédonien ? On n'en sait rien. Et on a la désagréable impression de naviguer à vue depuis au moins plus de 4 ans et le troisième référendum qui a exprimé le refus de l'indépendance. Le 8 mai, on a vu Emmanuel Valls vexé de l'échec, dont il a lui-même fait le constat, du conclave de Deva. Il est parti brutalement, presque en claquant la porte, et il nous a laissés sans aucune perspective claire. Mais quelques jours plus tard, le 16 mai, il a pris sa plume pour écrire au groupe politique et le ton a changé. Il annonce maintenant que le dialogue politique doit se poursuivre au travers d'un comité de suivi qu'il veut réunir avant la fin du mois de juin. Mais sur le fond, rien n'a changé. Pour Manuel Valls, le dialogue doit se poursuivre, mais sur son projet qu'il détaille pour la première fois et que l'on a un peu de peine à comprendre. C'est toujours un projet de souveraineté avec la France et selon lui, il permet de conjuguer des aspirations divergentes. Un projet d'indépendance, mais ancré dans la Constitution française, comprenne qui pourra. Le Palika pense avoir compris et il en est satisfait. C'est la première fois, dit-il, que l'État se positionne en faveur de l'indépendance. Il est clair que les indépendantistes auront de la peine désormais à aller en deçà. Ce qui va créer un vrai problème au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron, en effet, ne semble pas être sur la même longueur d'onde que son ministre des Outre-mer. Selon le député Nicolas Metzdorf, qui l'a rencontré, le président de la République lui a répété que la souveraineté de la France était de sa prérogative. Le chef de l'État qui a annoncé aux députés calédoniens qu'à ce titre, il prendra une initiative dans les prochains jours afin de relancer les discussions. On sait que le chef de l'État avait été sans ambiguïté au soir du troisième référendum et que lors de sa venue en juillet 2023, il avait répété que la Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française. Dans ces conditions, on s'étonne que le ministre des Outre-mer ait osé, au mépris du résultat des urnes et des déclarations du président de la République, donner raison à la violence et qu'il tente encore d'imposer l'indépendance. Alors Emmanuel Macron va-t-il reprendre la main ou va-t-il récupérer à son compte le comité de suivi de Manuel Valls ? Le ministre de l'Outre-mer ne l'entend pas de cette oreille et il proclame haut et fort que le dossier calédonien, c'est lui et seulement lui. Mais ceux qui n'ont que le nom de Michel Rocard à la bouche n'ont rien compris de sa méthode et n'ont rien retenu du subtil équilibre qu'il avait su créer. Et si on les laisse faire, on peut craindre le pire. En fait, on n'essaie pas de concilier la conciliable, c'est impossible. On essaie simplement de concilier les antagonismes, c'est la clé de tout. Et on n'essaie pas en Nouvelle-Calédonie de passer en force en affirmant que c'est un accord ou le chaos, parce que l'on est sûr que dans ces conditions, cet ultimatum débouchera sur une impasse. Michel Rocard avait compris, lui, que ce que veulent les indépendantistes, ce n'est pas l'indépendance. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et la reconnaissance de leur identité particulière. C'est la raison pour laquelle la grande innovation des accords de Matignon, c'est la provincialisation qui permet ce partage équitable du pouvoir entre les deux légitimités qui coexistent en Nouvelle-Calédonie. Michel Rocard doit se retourner dans sa tombe. Lui qui, il y a quelque 27 ans, avait fait le pari de l'intelligence, il doit souffrir de l'indigence de ses successeurs et de ceux qui se réclament de lui. Et il doit pester contre leur incapacité à résoudre l'équation compliquée dont il avait, lui, trouvé la solution.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir qui est donc à retrouver sur notre site internet comme chaque semaine ou à réécouter cet après-midi à 16h, juste après le flash. L'actualité politique, ce sont aussi ces deux déplacements en Nouvelle-Calédonie cette semaine. Par un hasard de calendrier, le député européen et vice-président des LR François-Xavier Bellamy et la chef de file des députés Rassemblement National Marine Le Pen sont en même temps sur le territoire du 27 au 31 mai, Elisabeth.
Oui, les deux personnalités politiques arrivent ensemble demain soir à Tontouta, mais elles auront bien sûr des emplois du temps séparés. Marine Le Pen vient en compagnie de Louis Alliot, mais aussi de deux députés européens, André Rouget, qui est chargé de l'Outre-mer au Rassemblement National, et Christophe Bay, qui connaît la Calédonie pour avoir été directeur de cabinet du haut-commissaire Dominique Burs, c'était en 1994. Dès mercredi matin, Marine Le Pen et sa délégation s'entretiendront avec le haut-commissaire Jacques Billon avant de déposer une gerbe à la Croix-de-Lorraine et de s'arrêter au monument de la poignée de main place des Cocotiers. Ils rencontreront ensuite les différents responsables politiques et institutionnels. Leur séjour prévoit aussi jeudi une visite de la SLN, un déplacement à Ducos pour constater les dégâts causés par les violences insurrectionnelles, et jeudi soir, une réunion avec des chefs d'entreprise. Vendredi, Marine Le Pen se rendra au Mont d'Or en navette maritime avant d'avoir d'autres entretiens politiques et elle clôturera son séjour par une réunion publique. Ce sera vendredi soir au Château Royal. De nombreux entretiens et des déplacements sur le terrain au programme également de François-Xavier Bellamy, le député européen qui vient d'être nommé vice-président de LR par Bruno Retailleau. Il s'entretiendra avec les responsables politiques et institutionnels et mercredi soir, il tiendra une réunion publique. Ce sera à l'hippodrome de Nouméa, à l'invitation du Rassemblement et des loyalistes. Les précisions sur ce déplacement de Ludovic Talia, c'est le responsable des jeunes du Rassemblement.
François-Xavier Bellamy sera sur le territoire pour faire un point sur la situation dans laquelle les Calédoniens sont, sur l'impasse institutionnelle dans laquelle on se trouve et pour rencontrer tous les Calédoniens. Il va rencontrer les présidents d'institutions, les acteurs de terrain, notamment les chefs d'entreprise, pour pouvoir prendre la température de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il y aura beaucoup de visites de terrain. Il y aura également une réunion publique qui se tiendra le mercredi 28 mai à 18h à l'hippodrome Henri Millard. Et j'invite tous les Calédoniens partisans de la France à y participer parce que c'est important pour nous aujourd'hui de porter haut et fort nos voix afin que tous les parlementaires, qu'ils soient nationaux ou européens, puissent prendre en compte notre vision et l'ampleur de notre combat aujourd'hui et la situation dans laquelle on se trouve.
Une réunion publique mercredi à 18h à l'hippodrome en présence de tous les responsables loyalistes et rassemblements. Le député Nicolas Mézor sera également présent en visioconférence depuis Paris.
Et j'ajoute que nous recevrons Marine Le Pen jeudi matin à 7h30 dans les studios de Radio Rythme Bleu. Le député européen François-Xavier Bellamy sera quant à lui votre invité Elisabeth dans le magazine Transparent. Ce sera évidemment vendredi à midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Est-il utile, selon vous, que des personnalités comme François-Xavier Bellamy ou Marine Le Pen effectuent une visite en Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que c'est utile, vous tapez 1. Si vous pensez que ce ne l'est pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Encore une information avant de marquer une première pause dans ce journal. Le Congrès se réunit aujourd'hui en séance publique à partir de 14h. Cette session extraordinaire fait suite à une demande du gouvernement calédonien formulée le 14 mai. Les élus doivent examiner un projet de délibération qui modifie deux textes de 2002 relatifs aux fonctions de conseiller pédagogique, de maître formateur et de maître d'accueil temporaire, ainsi que l'organisation de l'enseignement du premier degré. 11h42, la première pause avant de se retrouver et d'évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et notamment l'actualité judiciaire.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine Citoyen, parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine Citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Justice avec la fin de la deuxième session d'assises de l'année. Ce matin, le verdict est tombé dans l'affaire de coup mortel sur conjoint. 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis probatoire, ont été prononcés pour une femme de 37 ans originaire de Lufou. Elle était jugée pour des faits survenus dans la nuit du 19 octobre 2019 à Nouméa. La mise en cause avait asséné un coup de ciseau au sternum de son compagnon après une altercation qui avait mal tourné et l'homme n'avait pas survécu à ses blessures. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. Les droits juridiques peuvent être une véritable galère quand on s'y connaît peu. Accès au logement, non-versement de pension alimentaire, les problèmes sont nombreux et il est parfois difficile de s'y retrouver seul. C'est la raison pour laquelle des permanences juridiques sont mises en place sur le territoire, Léana Colombo.
Oui, vendredi dernier, le 23 mai, nous célébrions la 8e édition de la Journée nationale de l'accès aux droits. L'occasion de rappeler ou de faire connaître à tous que des lieux existent pour aider les personnes avec leurs problèmes juridiques et ce, gratuitement. Plus de 30 points de justice existent en Nouvelle-Calédonie et sont répartis dans les 3 provinces. Et ces permanences ne désemplissent pas. C'était le cas encore ce matin au tribunal de première instance de Nouméa.
Bonjour madame, alors bienvenue à ce point justice. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter.
Je m'appelle Rose. Déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir accepté de me prendre rendez-vous. J'étais vraiment dans le flou total par rapport à mes problèmes. J'avais besoin d'être entendue puis d'être accompagnée. Quant à mon problème actuellement, j'étais victime d'une agression que j'étais prise en charge par un avocat. La dernière démarche qu'on avait fait ensemble, c'était une demande d'aide judiciaire que j'ai pas eu gain de cause. Mais par contre, mon avocat, il m'a jamais recontacter. À l'instant même, je suis dans le flou total. Je ne sais pas si je dois continuer, je fais quoi, j'abandonne.
Alors, ce qu'on peut faire là, c'est déjà faire un point pour essayer de comprendre pourquoi on vous a refusé l'aide judiciaire. Est-ce que c'est parce que le dossier était incomplet ou est-ce que c'est parce qu'effectivement vous ne remplissiez pas les critères? Donc ça, c'est une chose qu'il faudrait qu'on regarde ensemble. Et puis, il faudrait qu'on regarde pourquoi il y a cette demande d'aide judiciaire.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Merci, madame.
En tout cas, ça aide beaucoup. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Voilà, ils sont dans le flou total de tout ce qui est juridique, surtout. Hein. Ouais. On a besoin d'être aidé, accompagné. Et je vous remercie beaucoup.
Marie Mathéos, coordinatrice du Conseil de l'accès aux droits de la Nouvelle-Calédonie, est en charge de cette permanence à Nouméa. Elle conseille chaque semaine une douzaine de personnes sur des sujets variés, explique-t-elle.
Ça peut concerner la famille, ça peut être un problème de pension alimentaire, par exemple. Ça peut concerner le travail, une situation de licenciement. Ça peut concerner le logement, une situation de procédure d'expulsion locative. Ça peut concerner un problème de contrat avec une entreprise. Enfin, vraiment tout sujet. C'est ouvert à tout le monde, vraiment tout le monde, quelle que soit la nationalité, quel que soit l'âge, même des mineurs. On pourrait imaginer que des mineurs aient besoin de venir. Il y a des endroits où ça se passe plutôt sur rendez-vous ou des endroits où c'est sans rendez-vous. Ici, vous êtes au point justice du tribunal de première instance de Nouméa. Il y a des permanence tous les lundis matins et tous les jeudis matins sur rendez-vous.
Pour connaître les horaires et les lieux d'accueil, rendez-vous sur le site internet cad.mc ou sur la page Facebook. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 24 01 99 24 01 99 pour le tribunal de Nouméa ou en vous rendant directement au point de justice.
En bref, la compagnie Air Calédonie annonce que la réservation du fret est désormais possible en ligne via le site internet d'Aircal. Un dispositif pour gagner du temps et les équipes commerciales restent disponibles auprès des usagers en cas de besoin. Opération nettoyage des fonds marins à la base Chalex. La deuxième opération rade propre a débuté ce matin. Toute la journée, les plongeurs de la base navale de Nouméa ratissent et fouillent les fonds pour y retirer un maximum de déchets, Charlotte Coulson.
Plus de 300 kilos avaient été récoltés lors de la première opération réalisée en 2022 à la gare maritime de Nouméa. Cette année, le bilan pourrait bien s'alourdir. 13 plongeurs de la Marine nationale sont mobilisés sur la journée. Ils passent au crible la pointe Chalex, une zone où les déchets ont tendance à s'accumuler, de la canette à l'encre marine, en passant par les pneus et les ferrailles. Le but, selon le capitaine de vaisseau Julien Faure, commandant de la base navale, est de marquer les esprits et sensibiliser à la cause environnementale.
C'est important de maintenir en état notre environnement. Les marins passent leur vie en mer, c'est leur vocation. On est donc très attaché à ce que la mer soit préservée. C'est partie de nos missions, lutter aussi contre les pollutions marines. Et donc c'est normal de contribuer aussi au sein de notre environnement immédiat. Au niveau de l'île Aubrin, on voit régulièrement des choses qui sont sur le rivage, poussées par le vent ou par les courants. On sait qu'on a des choses au fond de l'eau et que les plongeurs sont partis faire une reconnaissance avant. Donc on sait qu'on va récupérer quelques plastiques plutôt du côté de l'île Aubrin. Ici, c'est moins évident. Pour autant, ça n'empêche pas de retrouver un déchet ou une poubelle qui n'est pas une poubelle de la base navale, qui est une poubelle de la ville et qui a fait sa vie jusqu'au plus proche des quais. Donc oui, il y a fatalement une accumulation de déchets.
Et je vous le disais, la quantité de déchets récoltés aujourd'hui pourrait bien dépasser les 300 kilos de la précédente opération. Sur une matinée, les plongeurs ont déjà remonté une poubelle de la ville, un pneu, plusieurs ferrailles, mais ils ont surtout essayé d'évacuer une ancre marine attachée à une chaîne de plus de 20 mètres. La manœuvre a mobilisé plusieurs plongeurs.
Là, en fait, il y a 15 jours, on a fait du repérage des grosses parties, on va dire plus de 50 kilos à relever, pour savoir pour replonger dessus, parce que la visibilité n'est pas toujours bonne. Donc là, ils vont faire l'ancre en priorité. Et après, autour, il y a des gros pneus de tracteurs qui servaient en fait à protéger les quais à l'époque. Et de là, en fait, après, les pneus vont être évacués, nettoyés en amont quand même, pour pouvoir les évacuer et que ça parte au traitement et au tri.
On va voir si vous arrivez un peu à faire le tour.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous avait pointé l'ancre avec la petite bouée orange, là. Nous, on est venu s'accrocher dessus avec une circulaire. Une fois qu'on est tombé dessus, on l'a accroché avec les unités de relevage. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse chaîne qui partait. Et là, on a décollé un gros morceau de chaîne du fond. Et on s'est rendu compte qu'elle partait bien loin sous le quai, donc on a dû abandonner la manœuvre. Du coup, on va devoir faire d'autres plongées dessus pour pouvoir expertiser, voir jusqu'où ça va.
Et l'opération de dépollution continue toute la journée. Les débris seront ensuite lavés et envoyés dans une filière de traitement des déchets.
Les mystères du ciel ce matin avec notre invité de 7h30. Nous avons reçu Alain Klotz, astrophysicien et professeur à l'Université de Toulouse. Il est actuellement sur le territoire pour installer un télescope de type TARO à Watom. Télescope qui permet d'observer les explosions d'étoiles appelées sursauts gamma en langage scientifique à plusieurs milliers d'années-lumière. Un phénomène que nous a expliqué Alain Klotz.
Les étoiles en fin de vie ont la fâcheuse tendance soit de s'éteindre, comme le Soleil fera, donc il n'y aura pas vraiment d'explosion si on est avec une étoile de type Soleil, mais parfois les étoiles sont plus massives, elles sont parfois même 40 ou 50 fois plus massives que le Soleil, et là, à ce moment-là, l'extinction de l'étoile est beaucoup plus brutale, et donc on a une explosion. Et cette explosion, elle peut être, on va dire, moyenne ou très très forte, et l'explosion la plus forte que l'on connaisse, c'est l'explosion en sursaut gamma. Donc moi, je m'intéresse à ça parce que l'intérêt, c'est que si vous explosez très fort, vous pouvez être vu de très 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 loin dans l'univers. Et donc, notre télescope, qui est tout petit en fait, hein, à la comparaison avec les très grands télescopes au Chili, eh bien, en fait, on va gagner le fait que l'éclat du sursaut gamma est tellement brillant qu'on peut le voir jusqu'à 10 milliards d'années-lumière.
Le télescope TARO, qui est en cours d'installation à Watom à la fois, va permettre d'observer ce type de phénomène. Très maniable, de petite taille et piloté à distance, il existe 4 types de ce télescope dans le monde. L'objectif d'Alain Klotz, c'est d'avoir des appareils de ce type qui couvrent l'ensemble du ciel, car évidemment, ils ne peuvent observer les étoiles qu'à la tombée de la nuit.
Le télescope TARO, en Nouvelle-Calédonie, va voir la pauvre étoile en train de s'éteindre. À ce niveau-là, nous, on va juste émettre pour la communauté scientifique, ce qu'on appelle un circulaire, et on dit... Voilà, à tel endroit dans le ciel, nous, on est en train d'observer l'extinction de cette étoile. Alors, avant de s'éteindre, elle a brillé de mille feux, donc on décrit toute la phénoménologie, en fait, de la lumière. Mais c'est très court, hein. On rédige ça sur quelques lignes, on envoie ça sur, évidemment, un réseau distribution de courriers scientifiques. Et les observateurs qui ont des plus grands télescopes que nous, en fait, se disent « Ah, alors ça, ça nous intéresse, et on va continuer les observations de façon plus approfondie. » Et ensuite, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, on mélange toutes ces informations recueillies avec le petit télescope de Nouvelle-Calédonie et aussi avec les grands télescopes au Chili. Et avec tout ça, en fait, on va faire une publication qui va être jugée sérieuse et académique.
L'installation du télescope TARO à Watom a débuté la semaine dernière. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de la semaine.
Au départ, nous, on aime bien s'installer sur des montagnes. Donc, on avait regardé le Mondo avec les installations de TDF, mais c'était très très difficile d'accès. Et de maintenance, et donc on a préféré se mettre un peu plus bas.
Et quasiment au niveau de la mer.
Et voilà, alors c'est pas idéal du point de vue purement astronomique, mais c'est un compromis. Par contre, évidemment, le ciel à l'aérodrome, il est très très noir, et ça, c'est vraiment très plaisant. Quoi.
Voilà, c'est donc avec la province sud que vous avez choisi le site.
Oui, ils nous ont aidés, et puis ça a été une très belle collaboration. Oui.
Le CNES Toulouse va aussi utiliser ce télescope pour observer les satellites lancés dans le ciel, pour observer les déchets qui flottent dans l'espace, mais aussi les satellites espions. Et puis j'ajoute qu'Alain Klotz donnera une conférence à 18h demain à l'UNC sur les cataclysmes stellaires, en compagnie de Guillaume Chavanas, ingénieur au CNES et chef de projet du télescope TARO. Présentation vulgarisée qui est ouverte au grand public. Quant à l'interview d'Alain Klotz, elle est disponible sur notre site internet rrb.nc. Dans un instant après la deuxième pause de ce journal, on se retrouve pour l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Journal des sourds et des malentendants. Journal des sourds!
Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous faites répéter souvent. Vous montez le son de la radio. Vous êtes gêné en milieu bruyant. Faites évaluer votre audition. Maud Estrade, audioprothésiste diplômé d'État, vous accueille au centre de l'audition. Le centre de l'audition vous prête gratuitement des aides auditives afin de choisir la technologie la mieux adaptée à vos besoins. Centre de l'audition, 19 quai Jules Ferry, un téléphone 27 30 50.
On commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord l'actualité en métropole. Cannes plongée dans le noir pendant plusieurs heures ce week-end. Blackout sur la Croisette. Deux groupes anarchistes ont revendiqué avoir coupé des pylônes électriques et incendié des postes électriques. Noémie Loisel pour Europe 1.
Dans ce communiqué anonyme relayé par Indymedia, un site d'information militant, deux groupes se présentant comme deux bandes d'anarchistes revendiquent avoir, je cite, « saboté le principal poste électrique alimentant l'agglomération de Cannes et scié la ligne de 225 kV venant de Nice ». Ils expliquent avoir agi, je cite toujours, « pour perturber le festival de Cannes, mais aussi priver de courant les centres de recherche ». Le groupe d'anarchistes affirme avoir voulu cibler des sites comme Thales, les start-up françaises, l'aéroport et tous les autres établissements industriels, militaire et technologique. Dans ce communiqué, il dénonce le festival de Cannes. Couper paraissait assez bien résumer notre envie, éteindre ce système mortifère, écrivent-ils. Ces revendications sont actuellement examinées par les parquets de Grasse et de Draguignan. Les investigations se poursuivent. Par ailleurs, le gestionnaire du réseau RTE indique avoir renforcé la surveillance de plusieurs sites sensibles. Des hélicoptères effectuent notamment des patrouilles aériennes au-dessus des lignes à haute tension dans le département.
Et notez que quelques heures plus tard, d'autres actes malveillants ont perturbé la distribution d'électricité à Nice. Les enquêtes en cours devront déterminer si les deux actes sont liés. Les chauffeurs de taxi poursuivent leur mouvement de grève. Ils ont été reçus hier par le Premier ministre. Sur leur point de revendication, François Bayrou a annoncé le réexamen de la nouvelle convention sur le prix des transports sanitaires et l'ouverture de travaux sur la concurrence des VTC. Malgré ces annonces, les chauffeurs de taxi ont décidé de voter la reconduction de leur mouvement. Bilal Bouhamois est le représentant syndical de la Fédération des taxis indépendants.
Les taxis sont très méfiants sur des promesses. Ils souhaitent continuer le mouvement. Le mouvement se poursuit. La prochaine étape seront les réunions de mardi et peut-être à suivre. Les taxis attendent de voir quelles vont être ces réunions de travail, quel va être le contenu. Est-ce qu'on avance concrètement sur une solution ou est-ce qu'on reste sur des choses vagues ou des promesses ?
Les taxis toujours en grève et le retour des tracteurs à Paris. Les agriculteurs vont en effet manifester demain devant l'Assemblée nationale. Les députés doivent examiner la loi du plomb et ses 3500 amendements. Les agriculteurs considèrent que c'est un instant clé et entendent maintenir la pression, a expliqué Damien Garrigue, le président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne.
Sortie du Sénat, la loi du plomb allait dans le bon sens pour le monde agricole et surtout répondait aux attentes suite aux grosses mobilisations de 2024. Aujourd'hui, tout a été détricoté, j'ai envie de dire. Au lieu d'aller dans le bon sens, ils sont allés dans le mauvais sens. On doit avoir de la simplification, on a de la complexification, on doit avoir des levées d'entraves, on a des ajouts d'entraves. Après, il y a plein de choses dedans. Le stockage de l'eau, on nous parle de moratoire de 10 ans avant de pouvoir faire une réserve d'eau. Alors là, c'est un mécipride, c'est pas un problème. Comme elles sont utilisées dans l'agriculture ou comme elles devraient l'être, il faudrait multiplier la dose par 8 pour qu'on puisse voir une incidence sur les abeilles. Et là, encore une fois, c'est pareil, c'est une aberration. Alors nous monterons à Paris pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'ici, on est en Tarn-et-Garonne, on est loin de Paris, donc quand on s'exprime, ils ne nous entendent pas. Donc on va aller sous leurs fenêtres pour leur expliquer notre mécontentement. Qu'ils viennent avec nous discuter, on va leur expliquer notre métier. À un moment donné, il faut du courage, il faut de la volonté et surtout, il faut écouter le terrain. Donc aujourd'hui, cette fameuse loi, ils la votent dans son intégralité et on passe à autre chose. Parce que si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que 2024, ça aura été des préliminaires. C'est la dernière chance et il n'y en aura pas d'autres. On s'est déjà fait trahir une fois, mais pas deux.
Damien Garrigue, le président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne, interrogé par nos confrères d'Europe 1. Emmanuel Macron est arrivé à Hanoï. Le Vietnam est la première étape de ce déplacement que le chef de l'État va effectuer pendant 6 jours en Asie du Sud-Est, qui va le conduire ensuite en Indonésie, puis à Singapour. Il va bien sûr parler du fameux axe Indo-Pacifique, mais en pleine commerciale avec les États-Unis et face au bloc Chine-Russie. Le chef de l'État cherche aussi de nouveaux partenaires auxquels il veut proposer une troisième voie. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Vietnam, Indonésie, Singapour, voilà les pays qui intéressent Emmanuel Macron. Entre la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre, le président va tenter de les convaincre de rejoindre une troisième voie non alignée, comme avait essayé à l'époque le général de Gaulle avec le Mexique ou l'Amérique du Sud. Et pour arriver à ses fins, Emmanuel Macron possède plusieurs atouts dans sa manche. Déjà, le nucléaire, le Vietnam et l'Indonésie veulent construire des centrales dans leur pays. La France pourrait donc partager son savoir-faire. Ensuite, le Rafale. Jakarta est aujourd'hui dépendante des avions russes et voudrait diversifier sa flotte avec le fleuron français. Plusieurs gros contrats sont attendus dans les prochains jours. Enfin, l'Indonésie, pays avec le plus de musulmans au monde, est très inquiet de la situation à Gaza. Emmanuel Macron viendra rappeler qu'il est le seul Européen à proposer de reconnaître l'État palestinien.
Il est 11h59, une nouvelle pause.